Merci de m'accueillir auprès de vous en cette journée. Merci pour cette joie d'être dans la commune fraternelle. Je viens de l'assemblée de Saint-Germain-en-Laye, l'Oasis. Et donc, nous allons regarder ensemble dans l'Évangile de Jean au chapitre 8. Au chapitre 8, à partir du verset 48, nous allons lire jusqu'au verset 59, jusqu'à la fin de ce chapitre. Nous avons donc cette conversation, plus précisément cette prise à partie du Seigneur par ses opposants ici. Et donc, nous avons la réponse des Juifs. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. » Il en est un qui cherche et qui juge. « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ?» Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. » et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qui verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Alors, nous remercions le Seigneur pour la lecture de sa parole. Et ensemble, nous allons nous tourner pour étudier ce texte. Alors, nous voyons dans tout ce discours qui a commencé depuis le début du chapitre 8, n'est-ce pas ? Alors qu'au chapitre 7, le Seigneur avait demandé, dans Jean 7, 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qui viennent à moi et qui boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et avec cette invitation, après tout ce cheminement de pensée des uns et des autres, vient-il de Dieu ? Certains disaient non, d'autres disaient oui. On a l'impression que les personnes tournent en rond, comme dans un désert. Et Jésus lance cet appel, « Venez à moi !» Et on a encore, après cet appel, des discussions dans la foule. Et qu'est-ce qu'il est dit à la fin du chapitre 7 ?« Et chacun s'en retourna dans sa maison !» Cet appel est resté là, et le texte termine par chacun qui retourne chez lui. Mais Jésus ne faiblit pas. Jésus continue son travail d'apporter la parole du Seigneur. Et dans Jean chapitre 8, verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers suite à cet événement. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Et nous avons alors les scribes, les pharisiens qui sont venus donc soumettre ce cas de la femme adultère. Et le Seigneur a admirablement répondu, laissant chacun devant sa conscience, et puis Le Seigneur a affirmé quelque chose de merveilleux dans Jean chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas en ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, et là, de nouveau, c'était reparti. Et puis, il y avait des juifs qui avaient cru en lui, est-il dit dans Jean chapitre 8, verset 30. Et donc, le Seigneur est en train de répondre, et nous sommes arrivés à ce passage. Nous voyons combien le combat est intense. D'un côté, le Seigneur qui dit des choses vraies, des choses justes sur Dieu, sur ses contemporains, sur l'homme en général. Et de l'autre côté, nous avons cette opposition, cet antagonisme aux paroles du Seigneur, aux affirmations du Seigneur. On voit des personnes qui sont fermées, fermées à la logique de Dieu, mais qui suivent leurs convictions, leurs pensées, et qui mettent en avant leurs opinions, et même qui jugent le Seigneur. Mais le Seigneur, il continue à leur parler. Et quel bel exemple dans l'attitude du Seigneur. Et nous avons beaucoup à apprendre. Et au verset 24, il dit, dans Jean chapitre 8, il a dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas, dans l'original c'est « je suis », si vous ne croyez pas que je suis, c'est-à-dire il parle qu'il est Dieu lui-même, n'est-ce pas, vous mourrez dans vos péchés. » Et le Seigneur prononce là une parole importante. Si vous ne croyez pas, si le Seigneur parlait, c'est pour susciter la foi chez ses interlocuteurs. Si le Seigneur nous parle à chacun d'entre nous, c'est pour que notre foi augmente, soit affermie, et que nous marchions avec plus de conviction avec lui. Dans Jean 7, 38, qu'on avait lu, « Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein. » Et en face, on a dans Jean chapitre 7, verset 48, la hantise que quelqu'un croit en Jésus de la part de ses opposants, alors que c'est ce que le Seigneur cherche. Et quand le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, « Celui qui me suit aura la lumière de la vie », c'est-à-dire celui qui me suit avec confiance, qui s'attache à lui. Dans Jean 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, dit-il, si vous attachez à cette parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Là encore, c'est un appel à la foi envers sa parole. Et il dira dans Jean 8, 37, « Ma parole ne pénètre pas en vous. » Combien c'était important de recevoir cette parole afin qu'elle fasse une œuvre à salut. Et Jean 8, 39, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Abraham était un homme de foi. Il a marché par la foi. C'est même appelé le père en la foi. Il est une référence pour nous. Et Jean 8, 45, « Parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Verset 46, « Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Vous voyez, l'insistance du Seigneur à revenir toujours sur ce point fondamental qui peut être le début d'une vie avec le Seigneur pour passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Verset 51, « Si quelqu'un, dans ce passage que nous avons lu, si quelqu'un garde ma parole, c'est-à-dire si quelqu'un croit en ma parole, la retient, il ne verra jamais la mort, s'il agit conformément à cette parole. » Et donc, le Seigneur dit la vérité en voulant susciter la foi. Et est aussi un exemple pour nous, quand nous témoignons, de parler en nous remettant auprès du Seigneur pour que le Seigneur mette la conviction de péché par son Saint-Esprit dans les cœurs et aussi la foi envers nos interlocuteurs, chez nos interlocuteurs. Autre chose qu'on voit chez le Seigneur, qui est aussi un exemple pour nous, que nous avons à suivre, non seulement il parle en insistant sur la foi, présentant Dieu, ses voies et donc l'appel de Dieu. Mais aussi le Seigneur dit la vérité de la part de Dieu pour le bien des âmes. Il dit sans détour la vérité. Il ne cherche pas à flatter les hommes. Il est venu pour parler de la part de Dieu. Parce qu'il y a un enjeu éternel. Les âmes qui sont en face de lui ont besoin d'être mises devant la réalité pour passer par la repentance et mettre la foi en lui, en Dieu. Et nous aussi, soyons vrais. Ne cherchons pas des tours, allons droit au but. Disons la vérité, telle que dit l'Écriture. Bien sûr, avec douceur, avec amour, en dépendant du Seigneur, et le Seigneur agira dans ses âmes. On voit aussi chez le Seigneur la persévérance à témoigner. Combien de fois il revient? Vous avez vu ce chapitre 7, il y a eu un... Combien le Seigneur a parlé et les âmes qui tournaient en rond et personne n'est revenu le lendemain. Il revient. Et continue. Quelle persévérance! Ce n'est pas parce que, quand nous annonçons l'Évangile, les personnes se tournent par le Seigneur qu'il nous faut nous relâcher, nous décourager. Notre part, c'est d'apporter l'Évangile, qu'elle soit reçue ou pas reçue. Nous avons tendance à nous dire « Ah, j'ai prêché, j'ai apporté la parole de Dieu, l'Évangile, et puis je ne vois pas de fruits. » Nous avons trop tendance à regarder à des fruits immédiats, mais le Seigneur sait. Il ne permettra pas que sa parole revienne à lui sans effet. Mais nous aurons fait notre travail, que les personnes en face de nous écoutent ou n'écoutent pas, comme le Seigneur a dit à ses prophètes, comme Isaïe, « Va, annonce la parole. » Et c'est important que ces personnes aient été mises face à la responsabilité, face à l'amour de Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, au jour du jugement, c'est à lui de faire selon son plan. Alors, persévérons en comptant sur Dieu. Aussi, la patience du Seigneur. Qu'est-ce qu'il reçoit comme parole? Tu as un démon, disent-ils, par exemple, ici, au verset 48. Tu es un Samaritain. Et à d'autres endroits, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Et quelle patience! Quand on pense que c'est le roi des rois, le créateur de toutes choses, Dieu lui-même, quelle patience! Et pour nous, ça nous interpelle. Combien nous perdons facilement patience? Et aussi, quelle maîtrise de soi. Pourquoi? C'est à cause de la bienveillance dans son cœur. C'est à cause de son amour brûlant pour les âmes. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé, disait-il. Il y avait un feu qui brûlait chez lui. Il y avait la bienveillance, l'amour, l'ardeur pour Dieu. En tout cela, le Seigneur, face à cette opposition qu'on voit maintes et maintes fois, on voit briller ces choses-là chez le Seigneur. Et ce sont autant d'appels aussi pour nous à imiter notre Seigneur, à témoigner pour lui dans ce monde. Donc, prenons exemple sur lui. Et nous sommes appelés dans ce monde à apporter l'Évangile. En France, l'opposition n'est pas totalement visible. Elle est plus pernicieuse, c'est au niveau des idées, n'est-ce pas? Dans d'autres pays, c'est plus explicite, n'est-ce pas? Il y a la persécution. Et le Seigneur ici, il est persécuté, il est outragé, comme il le dit ici. Eh bien, nos frères et sœurs dans le pays de persécution continuent le témoignage. Eh bien, nous aussi, c'est au travers de tout cet exemple que le Seigneur nous donne, de lui-même et aussi de ses serviteurs et servantes, le Seigneur nous pousse ainsi à témoigner face à l'opposition, à ne pas baisser les bras, mais à regarder à lui, à ne pas regarder à nous-mêmes, n'est-ce pas? Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Nous n'avons pas à avoir de crainte. C'est naturel. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc nous avons besoin de regarder à lui, d'être renouvelé par son Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir témoigner avec sa grâce. Que le Seigneur nous aide. Et nous pouvons trouver beaucoup d'encouragement au travers de ces passages, n'est-ce pas, où le Seigneur rencontre de l'opposition et où persévère. Mais ce passage met aussi quelque chose d'important devant nos yeux. Dans Jean chapitre 8, verset 56, quand le Seigneur affirme « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Là, le Seigneur affirme sa divinité. Et il dit au verset 58, il précise encore plus, « en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et là, ils ne peuvent pas supporter que le Seigneur utilise ces expressions et qu'ils disent, en fait, qu'il est Dieu. Je suis. N'est-ce pas? C'est comme cela que Dieu, l'Éternel, s'est présenté, n'est-ce pas? Quand Moïse dit à Dieu, « Comment vais-je dire, parler de toi au peuple d'Israël quand je vais leur parler, alors que tu m'envoies ?» Alors Dieu dit, « Tu diras, je suis t'a envoyé. » Il n'y a que Dieu qui peut dire « Je suis ». Il est éternel, il était éternellement présent dans le passé. Il est présent, il sera éternellement présent pour toujours. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Comme aussi a dit notre Seigneur dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Oui, c'est l'affirmation de la divinité, et donc la divinité du Seigneur Jésus. Et l'évangile de Jean insiste particulièrement sur la divinité du Seigneur Jésus. Les quatre évangiles insistent, n'est-ce pas, sur des aspects très précis du Seigneur. Bien sûr, il présente le Seigneur dans ce qu'il est, mais chaque évangile met un accent. L'évangile de Matthieu, c'est ainsi sur la royauté de Christ. Et c'est associé à cette image du lion. Pour rappeler les quatre êtres vivants, il y avait un qui a un visage de lion. L'évangile de Marc, c'est l'évangile du serviteur qui est venu. Et là, vous avez le bœuf. On parle de service. Le serviteur parfait qui est venu, le serviteur par excellence. Et nous avons tous à apprendre du Seigneur. Et vous avez l'évangile de Luc, c'est l'homme parfait. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme parfait. Et c'est pourquoi ça fait référence au visage d'homme, parmi les quatre êtres vivants. Et nous avons ici dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ qui est présenté dans sa divinité. Et il est venu du ciel pour parler de la part de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu. Et c'est pourquoi c'est associé à l'aigle. L'aigle parle des hauteurs, n'est-ce pas? Et dès le début de l'évangile de Jean, vous avez cette affirmation qui intervient. Au commencement, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dès le premier verset. C'est formidable d'étudier les évangiles en regardant comment Dieu est précis. Rien n'est dit au hasard. Tout est fait pour montrer la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, la grandeur de son Père. Et combien de fois tout au long de cet évangile de Jean, l'insistance est mise sur cette divinité du Seigneur. Et vous avez plusieurs fois cette expression « Je suis » qui intervient dans cet évangile, comme là nous avons vu, n'est-ce pas, dans le verset 58 de Jean. Alors, on pourrait regarder ensemble quelques-unes de ces références. Vous avez dans Jean 8, 24, aussi cette affirmation, n'est-ce pas ? Regarde, Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas, et dans l'original, que je suis, c'est-à-dire qui je suis, Dieu lui-même. Et de nouveau, dans le verset 28, le Seigneur le dit également, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. » Sa divinité est proclamée devant ses auditeurs à plusieurs reprises. Vous voyez, au moins 4 fois dans Jean chapitre 8. Vous avez également dans Jean chapitre 13, verset 19, dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, avant, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. Dans Jean chapitre 18, verset 5, Jean chapitre 18, ils lui répondirent, donc quand on est venu arrêter donc, Jésus, n'est-ce pas? Jésus leur demande en verset 4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et littéralement, c'est « Je suis. » Et Judas, qui livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « Je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Une affirmation forte de sa divinité. Et vous imaginez, voilà, les personnes qui sont arrêtées qui tombent en arrière. Vous avez également, Jésus répondit, je vous ai dit que je suis, encore une fois. Vous avez également dans l'évangile de Jean, dans cette même lignée, Jean chapitre 6, verset 35, quand le Seigneur Jésus affirme, Jean 6, 35, vous avez ces versets, je suis le pain de vie. C'est l'affirmation encore de sa divinité. Vous avez dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde !» Qui peut le dire cela ? Que Dieu seul. Jean 10, verset 7, « Je suis la porte des brebis. » C'est par moi que les brebis peuvent venir. Jean 10, verset 11 et 14, « Je suis le bon berger !» Et tout juif le sait, quand Jésus dit que « Je suis le bon berger !» Ça nous rappelle le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je suis le bon berger, » dit-il. C'est encore une affirmation de sa divinité. « Je suis la résurrection et la vie » dans Jean 11, 25. La vie. Jean 14, verset 6, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 15, voilà justement, nous avons ce verset qui affirme encore sa divinité. Jean 15, verset 1, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, le vrai cep. » Et verset 5 également. Combien de fois l'évangile de Jean est traversé par cette pensée que Jésus est Dieu. Et donc nous aussi dans notre témoignage, veillons à bien mettre en avant ceci. Jésus n'est pas comme toute autre personne. Il est unique. C'est le Fils unique de Dieu qui est venu. Dieu lui-même, venu sous une forme humaine. et combien son message est important d'être suivi. Alors, je voudrais dire aux personnes qui, s'il y avait une personne parmi nous qui ne s'était pas tournée vers Jésus-Christ, eh bien, c'est une invitation. La parole de Dieu donne une forte invitation, de manière renouvelée, à venir à Jésus-Christ. Et Jésus appelle plusieurs fois les hommes à venir à lui. Car lui seul peut sauver. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui était donné parmi les hommes pour que nous puissions être sauvés. Dans Actes chapitre 4, n'est-ce pas ? Cette affirmation est donnée. Et Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Jésus-Christ vous appelle. Il vous dit la vérité sur vous-même, sur moi-même. Il dit que nous sommes pécheurs par nature. Et le péché que nous commettons, la parole de Dieu est claire, le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation de la vie. Et c'est la mort spirituelle, coupée de Dieu. Et si on reste comme cela, si on ne se tourne pas vers ce Sauveur qui nous appelle, si on persiste, eh bien, jusqu'au bout, on dit non à lui. Il n'y a qu'une seule possibilité pour cette personne, c'est d'être éternellement séparé de Dieu et souffrir les souffrances éternelles de l'enfer. La parole de Dieu ne mâche pas ces mots. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas venu à Jésus-Christ, ne tardez pas. Il vous appelle. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Demain ne vous appartient pas. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Ne dites pas, je verrai ça plus tard. Quand sa parole retentit, prenez-la au sérieux. C'est Dieu lui-même qui vous parle, comme nous l'avons vu. Si vous rejetez sa parole, vous rejetez Dieu. Quel grave péché. Alors, que dit l'Évangile ? Jésus-Christ est venu. Il est venu proclamer la vérité sur nous, sur Dieu. Et il est allé à la croix. Et à la croix, c'est Isaïe qui nous le dit de manière si claire, pourquoi il est allé. Vous avez aussi dans le Nouveau Testament, bien sûr dans l'Ancien Testament, mais en particulier il est dit, homme de douleur et habitué à la souffrance, Isaïe 53, verset 3, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pensez à tous ces Juifs que nous venons de voir dans Jean chapitre 8, quelle opposition! L'homme a tendance à rejeter, mais Dieu continue à parler. Nous l'avons dédié, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. À la croix, la Bible est claire, Jésus-Christ a pris vos péchés comme les miens. Il a payé pour vous comme pour moi, pour tous les hommes. Il a reçu le juste châtiment de Dieu pour nous donner en retour la paix. La paix si on se repent, si on vient à lui, en lui demandant pardon et en mettant notre confiance en lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qu'allez-vous faire face à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous? Allez-vous repartir, si jamais vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans votre cœur? Allez-vous repartir comme si rien été. La parole que vous entendez, si vous rejetez Christ, elle vous jugera au dernier jour. Et Dieu vous dit, hâtez-vous de venir à moi. Jésus-Christ vous appelle. Allez à lui, simplement, reconnaissant votre état dans la repentance et la foi, et il vous accueillera et vous donnera la vie éternelle. Vous avez ce merveilleux verset dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu attend de vous la foi. Celui qui croit au Fils maintenant ne verra point. Pardon, excusez-moi. Je reprends. C'est Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils maintenant a la vie éternelle. Merveilleux, n'est-ce pas? Recevoir le pardon de Dieu maintenant et de passer d'un état de mort spirituelle à la vie spirituelle, Dieu lui-même, n'est-ce pas, vous donne la vie. Jésus-Christ lui-même viendra en esprit habiter dans votre cœur. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, ne restez pas sourds à l'appel de Jésus si vous ne l'avez pas reçu comme votre sauveur. Venez à lui. Accueillez-le et prenez-le comme votre maître, votre bon berger, et lisez sa parole, et il vous guidera. Alors, je voudrais, juste avant de terminer, maintenant, combien c'est important pour nous qui avons cru, pour tous ceux parmi nous qui ont cru, combien c'est important d'être au clair sur les passages dans la parole de Dieu qui parlent de la divinité du Seigneur Jésus. Parce que l'ennemi fera tout pour contrer, n'est-ce pas, cette vérité que Jésus est Dieu. D'ailleurs, le diable, quand il est venu tenter le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit la première fois? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il conteste la divinité du Seigneur. La deuxième tentation aussi. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges de protéger. Si tu es le fils de Dieu, il conteste. Et même dans la troisième tentation, il veut détourner l'adoration qui revient à Dieu seul. Et il voudrait que Jésus-Christ l'adore. Mais le Seigneur lui dit, ôte-toi, Satan, car il est écrit, tu serviras le Seigneur ton Dieu et tu adoreras lui seul. Et c'est pourquoi pour nous, quand nous sommes appelés à annoncer l'Évangile, nous avons à veiller à avoir une doctrine claire et précise sur les passages de la divinité du Seigneur. Et je vous encourage à bien étudier sur ce plan-là, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Jésus est unique, et c'est important d'avoir l'Écriture avec nous et être bien équipé pour parler, pour défendre, n'est-ce pas, cette réalité. Vous avez par exemple... Je donne juste quelques exemples pour nous encourager à bien méditer, réfléchir, nous équiper, avoir plusieurs flèches dans notre carquois lorsque nous sommes amenés à parler devant des âmes. Des flèches de la parole de Dieu, bien sûr, des flèches à la fois qui reprennent, mais aussi pour toucher les cœurs, pour que les cœurs viennent à la repentance et se tournent vers le Seigneur. Je prends par exemple Proverbe 8, verset 22. Proverbe 8, verset 22. Juste quelques exemples pour nous encourager à, à vraiment maîtriser des versets que l'ennemi va essayer par la bouche de nos interlocuteurs pour nous déstabiliser. Alors, Proverbe 8, verset 22, il est dit, il est question de la sagesse, n'est-ce pas? On le voit dès le début de ce chapitre. La sagesse, verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Ici, on voit la sagesse de Dieu personnifiée. La sagesse personnifiée. Alors, l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Et dans l'ancienne version seconde, ça a été traduit, donc l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Et alors, et nous savons que c'est la sagesse, c'est par la sagesse que toutes choses ont été créées, n'est-ce pas? Eh bien, là, et nous le savons, par Jean chapitre 1, verset 1 aussi, verset 1, n'est-ce pas? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ici, il est dit, par exemple, que la sagesse, n'est-ce pas? Dieu m'a acquise au commencement de ses voies, ou encore m'a créé la première de ses œuvres. Alors, les personnes peuvent me dire, mais donc Jésus-Christ a été créé. Alors, comment répondre à ce genre d'argument? Eh bien, On peut réfuter ce genre d'argument qui conteste la divinité du Seigneur. Si Jésus est la sagesse de Dieu, à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait eu un moment où Dieu aurait été sans sagesse parce que Jésus n'a pas été créé? Mais c'est absurde. Vous voyez? Or, Dieu est le même. Il est infiniment sage, n'est-ce pas? Si Jésus avait été créé et que lui est la sagesse, n'est-ce pas? Comment peut-on dire, soutenir une thèse que Jésus a été créé? Ça voudrait dire qu'à un moment donné, Dieu aurait vécu sans sagesse. C'est inconcevable. Et le mot hébreu, c'est Kana, Q-U-A-N-A-H. C'est traduit par second créé, mais ce n'est pas le mot habituel pour créer. Ce mot signifie posséder, appartenir. Là, dans nos versions actuelles, il est écrit m'a acquise, n'est-ce pas? Mais avant, c'était traduit créé. Et dans certaines versions, vous avez ce genre de. Alors, voici un argument que nous pouvons bien avancer. Vous avez aussi dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, est-il dit de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Le premier-né de toute la création. Ça veut dire que Jésus aurait été créé. Eh bien, pour les Juifs, il faut bien voir le contexte. Pour les Juifs, premier-né, c'était surtout une question d'héritage, de position, de rang. Par exemple, David. David avait des frères plus âgés que lui. Et cependant, dans le psaume 89, vous pouvez regarder avec moi, psaume 89, verset 28, verset 28. Bon, je vais m'arrêter avec ces deux exemples et à vous de continuer pour fouiller cela. Et c'est très important qu'on puisse être bien équipé. Alors, psaume 89, verset 28. N'est-ce pas? Il est question de David, verset 4, n'est-ce pas? Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur, n'est-ce pas? Et il est dit ici, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Eh bien, David est présenté ici comme le premier-né, comme ayant donc l'héritier, comme étant héritier. Et Jésus-Christ est appelé comme celui qui est l'héritier de toutes choses dans Hébreux chapitre 1 verset 2. C'est dans ce sens-là. Hein? Hébreux chapitre 1 verset 2. Dans ce sens-là. Bon, je m'arrête là. Et je vais maintenant conclure. Frères et sœurs, ce passage que nous avons lu, n'est-ce pas, sur la dignité du Seigneur, cela nous encourage à vraiment adorer notre Seigneur, à le louer, à le célébrer. Que d'opposition il a rencontré lorsqu'il était venu sur cette terre. Et aujourd'hui encore, que d'opposition dans ce monde. Oh, que notre Seigneur trouve en nous, dans son peuple, de ceux qui le louent et l'adorent de tout leur cœur, que nous puissions grandir dans la louange, dans cet esprit d'adoration. Le ciel est rempli des louanges de notre Dieu. Vous avez cela dans l'Apocalypse, n'est-ce pas ? À l'agneau qui est sur le trône. Reprenons. Regardons dans Apocalypse, nous allons terminer avec ça. Apocalypse chapitre 5. Il est question de la louange envers Dieu, n'est-ce pas ? Verset 8. Quand il eut pris donc l'agneau, eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et vous avez ce qui est dit au verset 11, n'est-ce pas ? La voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et nous donne ce désir brûlant de l'adorer. Lui qui reçoit tant d'oppositions injustes, qui trouve de plus en plus au milieu de nous, au milieu de son peuple, ce fardeau de le louer, de l'adorer, de le servir et de vivre pour lui. Vivre pour lui, pour témoigner pour lui, c'est aussi une forme d'adoration qu'il mérite. Que le Seigneur nous aide. Amen.